se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Le journal de Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. La Russie endeuillée ce matin. Plus de 60 personnes tuées hier soir dans une attaque terroriste revendiquée par l'État islamique à Moscou. Le visage de la princesse Kate qui s'affiche en une de tous les journaux du Royaume-Uni. Elle annonce être atteinte d'un cancer et après les messieurs, place aux femmes, le tournoi des six nations féminins commence aujourd'hui. Les Françaises reçoivent les Irlandaises cet après-midi.
Moscou se réveille sous le choc. Plus de 60 morts et une centaine de blessés lors de l'attaque d'une salle de concert hier soir.
Ça s'est passé dans la banlieue de Moscou, dans cette salle qui accueillait plusieurs milliers de personnes. Le bilan est toujours provisoire. Kevin Gasser, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Et ce qu'on sait pour le moment, c'est que cette attaque a été revendiquée par l'État islamique, Kevin Gasser.
Oui, peu avant 20h, dans une salle de concert dans la banlieue de Moscou, alors que les spectateurs s'installent pour assister à un concert de rock, des coups de feu retentissent dans le hall. 2 à 5 individus progressent équipés d'armes automatiques selon les services de secours. Une vidéo filmée à l'intérieur de la salle de concert laisse entendre la panique des spectateurs qui se cachent sous les sièges et tentent de rejoindre la sortie. Selon le gouvernement russe, les pompiers ont pu évacuer une centaine de personnes qui se trouvaient dans le sous-sol du bâtiment. Bâtiment qui a pris feu après le jet par les assaillants d'une grenade ou bombe incendiaire selon une agence de presse russe. Les flammes se sont propagées sur près de 13 000 mètres carrés et sous l'effet de l'incendie, le toit s'est effondré. Les forces de l'ordre russe sont toujours à la recherche des assaillants.
Et ce matin, Vladimir Poutine n'a toujours pas réagi publiquement. Le Kremlin qui explique juste qu'il a échangé avec les services de renseignement et de sécurité du pays. Et en ce qui concerne l'enquête justement, Kevin Gasser, où on en est ?
Eh bien, 2 suspects ont été arrêtés, on vient de l'apprendre. Ils étaient en tout 2 à 5 individus vêtus d'équipements tactiques, munis d'armes automatiques. Les autorités russes avaient diffusé des photos d'une voiture blanche avec laquelle au moins 2 suspects avaient pris la fuite. Une attaque revendiquée par Daesh, donc revendication considérée crédible par de nombreux experts. Les États-Unis avaient averti Moscou début mars d'un risque d'attentat susceptible de viser de grands rassemblements.
Un dossier signé Kevin Gasser pour RMC.
L'actualité ce matin nous emmène aussi au Royaume-Uni où c'est le choc et l'émotion après l'annonce du cancer de la princesse Kate hier.
Ouais, ça fait la une des journaux du pays ce matin. Un visage, un sourire, celui de Kate et une photo extraite de la vidéo publiée sur les réseaux sociaux où elle a fait part de sa maladie, Laura Calmus.
Oui, la totalité de la presse britannique a choisi d'en faire sa une. La découverte de mon cancer a été un énorme choc, titre le Daily Express, qui explique que la princesse de Galles veut protéger ses enfants avant tout et les rassurer. Dans un message vidéo diffusé hier soir, Kate Middleton rassure d'ailleurs aussi son public avec des mots positifs repris par le Daily Mail. Ça va aller, peut-on lire en titre à la une, le tabloïd qui pointe du doigt toutes les spéculations de ces dernières semaines. Comment se sentent ces trolls en ligne ? Interroge le journal qui explique également que la famille royale traverse une crise, mais qu'elle permettra peut-être de les rendre plus forts, plus soudés. Hier soir, Meghan et Harry ont d'ailleurs souhaité santé et guérison à la princesse.
Laura Calmus, correspondante de BFM RMC à Londres, et après cette annonce, le roi Charles III s'est dit très fier de la princesse pour le courage dont elle a fait preuve en parlant comme elle l'a fait. Fin de citation.
9h03 sur RMC, 7 questions ce matin. Serons-nous payés en temps et en heure à la fin du mois ?
Eh bien, pas sûr, hein, puisque les virements bancaires sont suspendus, on le sait, tous les week-ends. Sauf que voilà, le week-end prochain, c'est Pâques. Pas de virement le vendredi saint, pas de virement le samedi ni le dimanche, mais pas le lundi non plus, puisque c'est le lundi de Pâques, faire le jour férié. Le hic, c'est que ça tombe au moment des versements des salaires, vu qu'on sera le 29 le vendredi prochain. Résultat, pour payer les salaires à temps, les employeurs doivent s'y prendre à l'avance, Lucas Laubert.
Oui, parce qu'à partir de jeudi soir, aucun virement ne pourra être pris en charge. L'employeur doit effectuer le virement plus tôt, de sorte à ce que l'argent arrive avant vendredi. Si ce n'est pas le cas, cas, il faudra attendre le mardi 2 avril pour recevoir votre salaire. La faute au système de transactions européen Target 2. Il permet les virements entre les banques partout en Europe, mais ne fonctionne que pendant les jours ouvrables. Alors si l'employeur n'a pas anticipé, il existe d'autres solutions. Déjà, si vous êtes dans la même banque, pas besoin de passer par Target 2 pour le virement et donc pas besoin d'attendre le mardi. Et puis autre solution, le virement instantané, ça fonctionne 7 jours sur 7, mais peut-être avec des charges supplémentaires pour l'employeur. L'option n'est pas gratuite dans toutes les banques.
Lucas Laubert, un adolescent de 14 ans mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir préparé un attentat contre un centre commercial à Lille. Et puis l'UEFA va indemniser les supporters de Liverpool après les incidents au Stade de France en mai 2022 en marge de la finale de la Ligue des Champions.
Du football sur les terrains à présent avec les Bleus qui se préparent à l'Euro 2024.
Et l'équipe de France qui reçoit l'Allemagne à 21h pour un match amical pour préparer l'Euro cet été. Rencontre que vous vivrez évidemment sur RMC. Et vous vivrez aussi sur RMC le tournoi des 6 nations femmes, le 15 de France féminin qui débute son tournoi tout à l'heure face à l'Irlande, 15h15, avec un objectif: détrôner les Anglaises qui l'ont emporté l'an passé pour la 5e fois d'affilée, Maria Azé.
Elles n'ont même pas encore débuté leur tournoi que le dernier match face à l'Angleterre le 27 avril est déjà dans toutes les têtes, dont celle du coach David Ortiz.
L'ambition, c'est se donner les moyens d'arriver sur ce dernier match avec le bagage qui nous permet de le remporter.
Car cette année, les Françaises espèrent reprendre ce tournoi aux favorites, les Anglaises qui ne l'ont plus lâché depuis 2018. Un gros challenge pour la coach Gabrielle Mignot.
C'est un match qui est ultra important aussi pour nous parce que dans notre développement, dans notre construction, on veut se confronter à ce qui se fait de mieux. Et aujourd'hui, les Anglaises font ce qui se fait de mieux.
Mais pour que le crunch soit une finale, le 15 de France devra remporter tous ses matchs, à commencer par l'Irlande, explique la troisième ligne, Charlotte Escudero.
C'est le premier, donc on veut marquer un peu ce premier match et on veut s'imposer. C'est important pour nous pour bien finir, de bien commencer aussi.
À un an de la Coupe du Monde en Angleterre, les Françaises veulent envoyer un signal fort et remporter leur premier trophée depuis 2018.
Et le rugby, c'est aussi le top 14. Cet après-midi, Toulon reçoit Montpellier à 15h. À 17h, 4 rencontres, dont Clermont-Pau. Et à 21h05, Bayonne accueille La Rochelle. La Formule 1 également dans l'actualité sportive de ce matin avec le Grand Prix d'Australie qui a lieu demain à Melbourne. Les qualifications qui se sont déroulées tout à l'heure. Et c'est Max Verstappen chez Red Bull qui partira en pole position. Cela devant Carlos Sainz et Sergio Pérez.
Et puis la France a de nouveau la cote pour les étrangers.
Et ils sont de plus en plus nombreux à venir en vacances chez nous. Et surtout, ils dépensent plus. Une bonne nouvelle puisque les recettes touristiques internationales sont en forte hausse. 63,5 milliards d'euros. C'est beaucoup, du coup j'en perds la parole. À Paris, certains ne comptent pas leurs sous. Tanguy Roman Clavelou.
Chapeau de cow-boy sur la tête, Teresa vient tout droit de Las Vegas et profite des ruelles de Montmartre en famille. C'est sa première fois à Paris, alors niveau dépenses, aucune limite.
No budget.
Pas de budget parce que je suis riche. Il n'y a pas de budget pour les voyages, les moments de détente. C'est un moment spécial pour ma famille. Paris en famille, ça n'a pas de prix.
Comme Teresa, de nombreux touristes étrangers ne font pas trop attention à leur budget quand ils visitent la capitale. Clément l'a bien remarqué dans son restaurant au pied de Montmartre, avec une augmentation significative du ticket moyen.
Il est passé du simple au presque au double. Les gens se font plaisir. On ressent une insouciance qui revient, qui est agréable.
Et le retour des touristes asiatiques devrait confirmer la tendance. Selon Xi, qui vient de Chine, ses compatriotes vont être de plus en plus nombreux.
D'abord parce qu'il n'y a plus le Covid. Depuis l'année dernière, la Chine a rouvert ses frontières. Il y a eu quelques touristes chinois, mais pas en groupe. Cette année, il va y avoir de plus en plus de voyages en groupe.
Un retour progressif des touristes chinois portés par les Jeux Olympiques prévus cet été et l'augmentation des liaisons aériennes entre la Chine et Paris.
Rien que pour ça, t'as beaucoup. Bah, ou Peggy Broche, visiblement. Oui.
Allez, on termine avec les courses à Vincennes, départ à 15h15.
Et voici les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le 16, Emeraude de Baïs. Leur outsider, c'est le 10, Huchen Toll. Le 16, le 10, les courses à la radio sur RMC et à la télé, RMC Découverte, Canal 24.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Stéphane.
De rien, Mathuro.
Allez, à plus tard. Hein.
À plus tard.
Salut. Nous, on est encore ensemble jusqu'à 9h30 avec la belle voix de Peggy que l'on vient d'entendre et le bel organe de François Pinet.
Bonjour.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous. Ça va, ça pique un peu. Hein. J'ai pas l'habitude, moi. Oui, bah, je sais pas comment vous faites.
Il est où, monsieur Drouet?
C'est très tôt. Très tôt. Monsieur Drouet, on va pas le dire, mais il a le droit de prendre des vacances, visiblement.
Oui. D'accord. Ça arrive à tout le monde. Hein.
Voilà. Très loin. Très loin de France. Mais il nous écoute peut-être.
Bravo.
On l'embrasse. Voilà.
Allez, bisous. Qu'est-ce que vous faites à partir de 9h30?
Avec Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Denis Charvet, Pascal Dupraz, ce matin, on va revenir évidemment sur le show Kylian Mbappé, parce que désormais, dès qu'il part, ça ressemble un peu à du stand-up. Il n'a rien voulu dire sur son avenir, mais justement, nous, on se pose la question, est-ce que le suspense a assez duré? Est-ce que vous en avez marre? Venez nous le dire, en tout cas, c'est la question qu'on pose à nos GG, dès 9h30 sur RMC.
À tout à l'heure.
Et d'ici là, le beurre et l'argent du beurre avec Perico Légas.
Perico, le nom fait maison, rejeté à l'Assemblée.
Alors, on va savoir ce qu'on va avoir dans notre assiette. Effectivement, c'est abandonné, mais on va expliquer pourquoi.
Eh ben, on se retrouve dans deux minutes pour expliquer pourquoi. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Le beurre et l'argent du beurre.
Bonjour Perico Légas.
Bonjour Mathieu.
Ravi de vous retrouver Perico. Parlons ce matin d'un abandon. L'abandon de la proposition de loi dite non fait maison. Est-ce qu'il faut vraiment en faire tout un plat, Perico?
Alors, abandon, peut-être pas. Report à l'automne. Et le député MoDem Richard Ramos a dit qu'il allait remettre le projet de loi dans quelques jours avec des signatures de tous les groupes parlementaires.
Et donc, on connaît sa combativité.
C'est un vrai problème. C'est-à-dire que là, on a touché à des enjeux politico-économiques et ceux qui sont hostiles au fait que le client sache comment est élaboré le plat sur la carte du restaurant, eh bien, on considère qu'il n'a pas à avoir l'information. Ça remonte à 2014, quand Carole Delga, gouvernement Manuel Valls, décide sur pression, ça faisait 30 ans que ça durait, est-ce qu'on peut indiquer sur la carte si le plat est fait maison ou pas? En fait, ça veut dire quoi? Le cuisinier qui se lève à 5h du matin, qui fait ses courses, qui transforme ses produits dans sa cuisine, qui fait des plats élaborés sur place dans son restaurant, demande à ne pas être au même prix, au même plan, et au même prix initialement que celui qui achète des sachets ou des boîtes.
Peut-être qui va chez Métro de... et qui voilà, réchauffe au micro-ondes.
Il a besoin de cuisine, il a un micro-ondes, il fait ça. Et donc ces cuisiniers-là, qui sont quand même majoritaires, on dit, est-ce qu'on pourrait avoir juste une petite distinction? On se donne du mal, ça nous coûte cher, on est un peu plus cher et on fait notre vrai métier. Est-ce qu'on peut juste avoir une reconnaissance professionnelle?
Tout ça paraît normal.
Tout ça paraît normal. Donc Carole Delga met en place, Manuel Valls signe le décret, donc du fait maison, on mettait sur la carte du restaurant une petite maison en face du plat fait maison. Quid du plat pas fait maison?
Eh oui.
Ben oui, donc qui va prendre? Ah, je voudrais, est-ce que je peux avoir un pas fait maison? Mais et finalement, c'est toujours en vigueur, du coup, comme c'est pas obligatoire. Ben les gens sont c'est le plan est tombé à l'eau. Vous savez que là-dedans, puis vous avez le droit d'utiliser plein de choses, des sauces, des condiments, de la choucroute froide, des salaisons qui sont pas faites
oui,
maison.
Oui, c'est-à-dire que dans l'assiette, on peut avoir, je sais pas, la viande cuite maison,
85% de fait maison, mais il peut y avoir du 15% pas fait maison, même jusqu'aux sauces. Alors les sauces, faut mentionner que c'est pas, mais la sauce c'est fondamental.
Compliqué quand même.
Du coup, c'est tombé à l'eau. Olivia Grégoire, toujours sur la pression de ces professionnels de la restauration, de ces artisans cuisiniers qui ont dit, écoutez, nous on a besoin de se faire restaurer, elle a dit, on va faire le contraire, on va être plus malin, et c'est vrai, on va signaler sur la carte le non fait maison, comme ça c'est clair. Alors, signaler sur la carte un plat non fait maison, c'est condamner ce plat à mort. Vous voyez dans le restaurant, le client qui arrive, je voudrais le pas fait maison, ça veut dire que le non fait maison disparaissait totalement de la cuisine. Et là, il y a un enjeu officieux, un enjeu officiel. Officiellement, le syndicat UMI, président par Thierry Marx, et Guillaume Gomez, très, très, très étonnamment, donc ambassadeur, de la gastronomie française, au titre de la présidence de la République, disent oui, mais autant fait maison, c'était un signal positif, c'était une reconnaissance de la qualité. Non fait maison, c'est quand même une stigmatisation du plat, c'est une démarche négative.
Oui, donc en fait, on est plus lâche que les Italiens.
On est plus lâche que les Italiens.
Parce que l'Italie, c'est en vigueur depuis 2019. Voilà. Et l'Italie, pardonnez-moi, ce n'est pas le pays le moins gastronomique du monde. Au contraire.
Nous sommes bien d'accord, ils sont beaucoup plus exigeants et vigilants que nous sur cette question, parce que le consommateur italien, lui aussi, est exigeant. Il veut savoir ce qu'il mange, il ne se laisse pas avoir. En France, on est un petit peu plus inculte, un petit peu plus insouciant, sauf une partie de la...
Où on laisse aussi l'état de nos restaurants complètement délabré, de plus en plus.
La vérité, mon cher Mathieu, c'est que le lobby de l'agro-industrie, c'est un chiffre d'affaires considérable, les plats industriels envoyés au restaurant. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Je vais même aller plus loin, et je l'ai dit, je crois, une fois dans cette émission. Il y a des fois où je vais préférer un plat industriel fabriqué dans des conditions acceptables, et j'en ai vu, moi. C'est, en fait, au lieu que la marmite fasse 10 kilos, elle fait 100 kilos, mais c'est préparé avec des produits frais, c'est transformé en usine, c'est mis en pochette, mais c'est quand même de la cuisine. J'ai quelquefois goûté des plats industriels qui étaient meilleurs que certains plats de bistrot. Vous savez que l'ardoise sur le tabouret, on a, et puis le plat était pas bon. Alors, je sais pas si la matière première était pas bonne. Donc, je ne condamne pas l'industriel. Je dis seulement que le lobby industriel, si on applique le non fait maison, perd des parts de marché consécutives. Et je sais, parce que ce gouvernement fonctionne au lobby, qu'il y a eu des pressions de ce lobby pour dire, mais c'est pas possible, si vous mettez du non fait maison, je suis mort, et on fait marche arrière.
On leur a servi la soupe. C'est ce qu'a dit Stéphane Manigold ce matin dans Apolline Matin, cette semaine.
On ne rentre pas dans la polémique, est-ce que c'est bon ou pas bon, on rentre dans la polémique, est-ce que le consommateur, le client, a droit de savoir d'où ça vient, donc une traçabilité du plat, c'est exactement comme les produits transformés, la traçabilité, qui l'a fait, comment ça a été fait, c'est fait par un cuisinier, un restaurant ou pas, c'est tout.
Stéphane Manigold, qui est restaurateur, dans les grandes gueules régulièrement, c'est un coup de poignard dans le dos, dans le cœur de l'artisanat, a-t-il ajouté.
RMC, le beurre et l'argent du beurre.
Alors accueillons un artisan, un maître restaurateur, Perico. Il s'appelle Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
La
Perico.
Ferme Saint-Jacques, c'est le nom de votre restaurant, à Châtellerault.
La ferme. Exactement, la ferme Saint-Jacques à Châtellerault.
Maître restaurateur, ça veut dire que vous faites tout maison?
Oui, absolument. Pour avoir la charte maître restaurateur, il faut tout faire maison et tout, si possible, enfin tout en produits frais et le plus local possible.
Ça veut dire y compris jusqu'aux sauces dont parlait Perico,
bien
y
entendu,
compris jusqu'au pain
évidemment.
Que vous servez. Tout
on
ça, c'est fait par
sauce.
Vous.
Alors tout est fait maison. Les sauces sont faites maison, évidemment. On fait nos fonds de sauce, les fumées de poisson, tout maison. Il n'y a aucune poudre qui rentre chez nous.
Et vous avez le temps. Parce que c'est l'argument de beaucoup de restaurateurs.
On n'a pas
le temps de tout faire maison.
Il se lève à 6h du matin, alors celui qui fait du plat transformé, il se lève à 11h, c'est la seule chose.
Alors évidemment, il faut du temps et puis il faut évidemment du personnel.
Qu'est-ce qui, sur un menu, peut nous indiquer que tout n'est pas fait maison? Comment on peut le voir au premier coup d'œil quand on entre dans un restaurant?
Oh ben quand tout est déjà tout uniforme et que ça n'a pas de goût, pas de saveur, pas de couleur, déjà c'est une bonne indication.
Il paraît
nous,
qu'il
la seule chose qui n'est pas fait maison chez nous et c'est indiqué, ce sont les glaces qui sont faites par un artisan de la région.
D'accord.
Mais en là, général, c'est signalé d'ailleurs. Hein. Même si c'est une charcuterie, ça peut être j'ai beaucoup de maîtres restaurateurs qui disent boudin de chez Monsieur Intel.
Bien sûr, de la maison machin.
Mais parce que c'est une référence qualitative.
Et les fromages, on travaille avec un petit producteur du coin qui nous fournit les fromages qui sont à 10 km de chez nous.
Bon, les autres indicateurs, c'est le rapport entre le nombre de tables et le nombre de plats, si vous avez une carte avec 80 plats.
Exactement, le nombre de plats qui sont à la carte. Un restaurant où il y a 30 plats, c'est impossible.
C'est louche.
Évidemment. Il paraît qu'il faut se méfier aussi de la souris d'agneau et du moelleux au chocolat qui est servi toute l'année parce que c'est les deux plats phares que vendent les agro-industriels.
Le fondant au chocolat.
Bonjour Anaïs Castagna.
Bonjour Mathieu Roux. Bonjour Perico.
Ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'on rechigne à cause de ça aussi à aller au resto. Les Français vont de moins en moins au restaurant.
Oui, c'est ce qui ressort d'une étude Revenu Management Solutions a publié en début d'année, étude qui montre que les Français sont de plus en plus nombreux à déserter les restaurants qu'ils jugent trop chers. Un tiers des Français disent cuisiner davantage à la maison pour éviter les sorties au resto. Et lorsqu'ils y vont, les Français font de plus en plus attention à ce qu'ils prennent. 42% affirment commander des plats économiques, plus économiques qu'avant. 17% font l'impasse sur les desserts. Une fuite des clients qui s'explique par l'inflation, mais pas seulement pour certains restaurateurs. Si les Français vont de moins en moins au resto, c'est qu'ils n'en ont pas toujours pour leur argent. Ah. Il y a une explosion de restaurants micro-ondes qui servent des produits tout faits en 30 secondes, a dit notamment Stéphane Manigold dont vous avez parlé, Mathieu. Il appelle à un grand nettoyage dans le secteur.
Oui, Perico.
J'avais eu l'honneur d'être sollicité quand Carole Delga elle a fait un tour de table des gens un peu concernés par la question du fait maison. Et elle me reçoit à Bercy et elle me dit, vous, ça serait quoi votre solution? Moi, ma solution, c'était la solution maximaliste. J'appliquais la référence Raffarin à la boulangerie. La boulangerie, c'est l'endroit où on fait le pain. Prépare le pain, on le cuit maison. J'ai dit, ben, le mot restaurant ne sera réservé qu'aux cuisiniers professionnels qui transforment. Elle me dit, mais ça, c'est impossible.
Mais c'est infaisable. Ah, ben oui. Vous allez loin.
Un restaurant, le mot restaurant n'est accordé qu'à cette catégorie professionnelle. Là, elle m'a dit, c'est pas possible. Mais comment on appelle les autres? Bah, je dis mangerie, dépôt alimentaire, ce
point
vous
chaud.
On trouvera des noms. Voilà.
Thomas,
voilà.
Vous seriez d'accord? Mais parce qu'au moins, ça permettra d'être clair.
Totalement. Totalement d'accord. Comment c'est possible qu'un fast-food s'appelle un restaurant? Non, excusez-moi, c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est complètement dénigrer notre métier, dénigrer notre savoir-faire. Il faut absolument que les gens qui fabriquent eux-mêmes, qui, exactement, ça s'appelle des restaurants, et les autres, on trouve un autre terme. Ça, ce serait vraiment la solution idéale.
Restaurateur, c'est un métier. Alors, il y a des cuisiniers patrons qui sont restaurateurs. Restaurateur, c'est un métier à part entière. Cuisinier, évidemment. Et je rends hommage à l'initiative de maître restaurateur, qui est une reconnaissance, un certificat officiel.
Mais ça, c'est pas mal.
Mais c'est vérifié en préfecture.
Mais parce qu'on le sait pas forcément, Frérico, voilà, que le titre qu'a Thomas de maître restaurateur, ça assure que c'est du fait maison.
En fait, c'est la solution de la loi, là. La solution, c'est que tout le monde rentre dans les maîtres restaurateurs.
Et voilà.
Qu'on applique le concept de maître restaurateur à toute la restauration française. Vous êtes restaurateur ou pas, sinon ben vous n'êtes pas restaurateur, c'est tout.
Parce qu'en plus, Thomas, vous mouillez le maillot. Je regardais là, votre carte, dites-moi.
Ah ben
juste pour saliver là, avant de se quitter,
allez.
Petit bocal de foie de volaille compotée d'oignons, tartare de Saint-Jacques acidulé, foie gras mi-cuit maison, chutney de fruits, crème de langoustine au lait de coco, radis, pistou de coriandre, côté poisson, sole meunière, brochette de Saint-Jacques à la rôtissoire, d'eau de cabillaud sauvage, les viandes, entrecôte limousine, faux filet limousin, filet de bœuf, côte de bœuf, carré d'agneau. Et Thomas, vous avez le temps vraiment de cuire tout ça, de préparer tout ça tous les jours?
Alors, nous, on a la chance dans notre restaurant d'avoir une rôtissoire qui est dans la salle, en face du client.
Ça change
donc
tout.
Le client, quand il commande une côte de bœuf, le temps qu'il mange son entrée, son petit bocal, il voit sa côte de bœuf qui est en train de cuire devant lui.
Et alors, surtout, l'avantage
du
Riz Saint-Jacques à Châtellerault, c'est que la Roche-Posay n'est pas loin, on peut faire une petite cure. À part avec les bonbons au Saint-Jacques, on va faire à la Roche-Posay. En tout cas, c'est la frontière du Poitou et de la Touraine. C'est une très belle ville.
Un beau programme pour le week-end.
Exactement. Et puis après, on fume au Futuroscope et comme ça, le week-end est complet.
Voilà.
On y va, les amis.
Banco. Merci beaucoup, Thomas. Maître restaurateur. Donc, votre restaurant, la ferme Saint-Jacques à Châtellerault, c'est en Touraine, entre Tours et Poitiers. Perico, merci beaucoup. On se retrouve demain. Ah, on parlera d'huile.
Je vais vous graisser la pâte.
Allez, à demain.
Le beurre et l'argent du beurre. Votre rendez-vous à retrouver évidemment sur l'appli RMC.
Et on se retrouve dans deux minutes.
RMC,
la matinale week-end.